on t'a beaucoup entendu parler, Denis Roncourt, de la, un peu de la vacuité du discours autour du changement climatique, ou encore que le discours sur le changement climatique sert de caution ou de légitimité à des entreprises, des corporations qui veulent continuer à vouloir exploiter, tout en disant qu'elles vont peut-être se préoccuper de certaines choses concernant ce problème, avec le fameux colloque de l'ONU, conférence sur les changements climatiques.
Ouais.
Ça fait beaucoup de bruit, en fait, sur tout ce qui concerne les changements climatiques, mais pour toi, c'est un problème soit secondaire ou qui n'existe tout simplement pas.
Oui, moi, je dirais que toute la question du carbone, du CO2 dans l'atmosphère est une espèce de leurre, est une espèce de faux problème, est une espèce de construction qui avantage beaucoup ceux qui gèrent l'économie globale, si on veut. Et elle est motivée surtout par des intérêts financiers. Le monde financier dominant veut un système de soit des crédits du carbone ou un échange du carbone ou un système monétaire qui implique le carbone. Parce qu'il y aurait des milliards à faire. Ça serait la plus grosse économie sur papier qui n'a jamais été inventé, parce que le carbone est impliqué partout dans les activités humaines, et ça serait donc un mécanisme d'extraction des richesses très très puissant, de contrôle et développement de nos ennemis. C'est pour ça que les États, pas seulement les milieux financiers, mais aussi les États s'intéressent à ça, parce que les puissances de premier monde pourraient utiliser ça pour limiter et taxer le développement industriel du monde en développement. Un peu de la même façon qu'ils utilisent les droits à la propriété intellectuelle pour extraire des taxes sur les pays qui sont moins développés, etc. Donc, ça serait un autre outil de contrôle et de taxation du monde. Et donc, ça, c'est le but, c'est le prix qui serait à gagner s'ils réussissent à faire installer un système comme ça à l'échelle du monde. Et donc, ils travaillent très fort à ça. Ils mettent beaucoup, beaucoup de ressources pour faire accepter cette notion que les échanges économiques, un système d'échanges économiques peut régler cette question du carbone. Et donc, ils ont tout intérêt à promouvoir des scientifiques et une société civile qui acceptent cette notion absolument ridicule que le CO2 dans l'atmosphère, ça serait un problème. Voilà.
Mais pour les paysans ou les gens de la terre, qui constatent qu'effectivement le climat est en train de vraiment se modifier, mais considérablement, qu'est-ce
Mais les...
comme par exemple qu'il fait chaud l'hiver, qu'il faisait pas, on voyait pas ça, il y a quasiment plus de neige. Il y a beaucoup de phénomènes quand même qu'on peut observer sans être un scientifique.
Moi, j'habite à Ottawa depuis ben des décennies et personnellement, je n'ai pas remarqué de changement climatique à Ottawa. Je n'ai pas remarqué quelque chose qui me semble inhabituel d'une année à l'autre sur l'échelle de quelques décennies. Alors, c'est une question de perception de l'individu. Beaucoup de choses peuvent avoir un impact sur notre perception et il faut inclure les médias de masse, il faut inclure le système d'éducation, il faut inclure plein d'affaires. Je pense que la chose qui a le plus d'impact sur comment on perçoit les choses, c'est notre sens de qu'est-ce qui nous avantage personnellement. Est-ce qu'on a un intérêt à croire quelque chose plutôt que quelque chose d'autre? Ça va déterminer notre perception. Moi, je ne vois pas ça localement ici à Ottawa. Mais ayant dit ça, il faut tout de suite ajouter que il y a toujours eu et il y aura toujours des changements climatiques régionaux. Il y aura toujours des sécheresses, il y aura toujours des hivers qui sont plus froids que d'autres, il y aura toujours des pluies qui sont plus fortes que partout dans le passé à certains endroits spécifiques, etc., etc. C'est la nature même d'un climat planétaire. C'est qu'il y a des changements. Le système planétaire, qui inclut l'atmosphère et la haute atmosphère, etc., est compliqué, est énorme, c'est à l'échelle d'une planète. Les jet streams sont déstabilisés, ont des migrations. Le climat régional en Amérique du Nord, on peut le suivre sur 1000 ans à travers les anneaux dans les arbres, à travers les sédiments aquatiques, etc. On sait très bien qu'il y a eu des changements climatiques régionaux énormes et il va continuer à en avoir. C'est tout à fait naturel sur une planète qu'il y ait de telles choses. Et donc, les gens qui souffrent de ces changements régionaux, la solution, c'est d'aider ces gens-là. Parce que la plupart du temps, les gens vont souffrir des fluctuations climatiques et des changements régionaux climatiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulnérables. Pourquoi est-ce qu'ils sont vulnérables? Parce qu'on a complètement détruit leur société et leurs économies dans le but de les exploiter ou de les marginaliser. C'est pour ça qu'ils sont vulnérables. C'est pas parce que le climat change. Donc, je pense qu'il faudrait adresser les vrais problèmes. Et les vrais problèmes sont des problèmes d'exploitation et ben, de guerre, etc. Je veux dire, pour aider les gens, la meilleure façon, c'est d'arrêter de les opprimer. La meilleure façon d'aider les populations vulnérables, c'est d'arrêter de les opprimer. C'est très simple. On n'a pas besoin de parler de la chimie et de la physique, de la haute atmosphère et du CO2. Il suffit de changer notre comportement agressif et de ne pas permettre à nos gouvernements et à nos corporations d'avoir le comportement qu'ils ont. Voilà.
Et quand tu remets en question le climat, le changement climatique, tu remets pas en question que vraiment une destruction environnementale grave.
Absolument pas. Je veux dire, j'admets qu'il y a de la destruction environnementale à grande échelle et partout sur la planète. Et la meilleure façon d'arrêter cette destruction environnementale, c'est d'arrêter cette destruction environnementale. Ce n'est pas de se préoccuper du CO2. Je veux dire, ça me semble évident. Il faut arrêter les bulldozers, il faut arrêter l'exploitation minière qui empoisonne les sources d'eau, qui détruit des territoires entiers où il y a des gens qui habitent, etc. Et pour la façon d'arrêter la destruction, c'est d'arrêter la destruction.
Ouais, comme d'arrêter la déforestation aussi.
Ouais.
Ouais, tout à fait, c'est clair.
Ouais. Et la meilleure façon de protéger l'environnement et le territoire, c'est de laisser les gens, les autochtones, les habitants, les citoyens gérer ce territoire et avoir une autonomie démocratique sur le territoire. C'est la meilleure façon que je connaisse dans ce monde qui est très populeux. Voilà.
Qu'est-ce que tu dis des conférences, colloques de l'ONU sur les changements climatiques?
Mais c'est tout financé par la même gang. Ça fait partie de notre greenwashing global. Ça fait partie de ce mouvement. Je veux dire, il suffit de regarder l'historique du, même l'historique politique du IPCC. C'est International Panel on Climate Change. Le grand body international là, qui évalue soi-disant la science du changement climatique et qui fait des recommandations, bla bla bla, où les États nomment des représentants, c'est un système très politisé, etc. Qui a commencé ça? Pourquoi? Quel était le but? Dans quelle mesure est-ce que c'est crédible ce qu'ils font, le travail qu'ils font, etc.? C'est ces questions-là qu'il faut poser. Il faudrait que des chercheurs universitaires arrêtent de déblatérer sur ce que disent les élites à travers les médias et se penchent vraiment sur ces institutions-là et fassent une analyse critique institutionnelle de ces corps. Et là, on pourrait découvrir ce qui se passe et pourquoi ça se passe et chercher à suivre les enjeux monétaires et les enjeux de pouvoir. Ça serait une recherche valable. Mais le pouvoir ne veut pas financer ces recherches-là. Et les professeurs d'université n'ont pas le front ni la créativité de faire ces recherches-là.
Et qu'est-ce que tu dis des gens qui, année après année, se représentent aux colloques, aux conférences, pour refaire à peu près les mêmes manifestations d'une fois à l'autre, pour dire qu'ils espèrent que quelque chose va sortir de cette conférence?
Ben, moi, je dirais que c'est des pauvres perdus. Je veux dire, c'est un non-sens, c'est ridicule. Si on veut améliorer le monde en tant qu'individu qui se sent responsable, qui sent une certaine responsabilité et qui veut agir de façon honnête dans le monde, eh bien, il faut agir là où on a du pouvoir, là où on est connecté à l'économie. C'est-à-dire, si on est étudiant à l'école, si on est travailleur au travail, etc. Là où la connexion la plus forte que le système a sur nous est aussi le point de contact le plus fort qu'on a contre le système pour le modérer dans son exploitation, etc. C'est là qu'il faut agir. Et donc, ça donne rien d'aller faire des démonstrations et de faire tout ce genre de choses si dans notre vie, là où on a du pouvoir, on n'agit pas. On est obéissant au travail, on va faire une démonstration contre le G20 en fin de semaine, et le lundi, on redevient un employé obéissant au travail dans un système complètement non démocratique, complètement hiérarchique et oppresseur, qui est mauvais pour notre santé et la santé de tout le monde, dans une corporation ou une compagnie qui participe dans cette folie, et on se donne bonne conscience parce qu'on est soi-disant activiste. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment s'examiner et essayer d'acquérir un peu plus d'honnêteté par rapport à nos actions personnelles.
Et aussi arrêter de toujours reproduire les mêmes illusions que ces gens-là qui se rassemblent au colloque sur les changements climatiques, comme à bien d'autres endroits, vont changer quelque chose de positif dans nos vies.
Oui, c'est un bon point parce que les activistes qui vont se présenter là et qui vont dire faites quelque chose, ils soutiennent l'idée que ce qui est en train d'être fait est important et utile.
Ouais, tout à fait. Il donne légitimité au pouvoir d'exercer le pouvoir, en espérant que le pouvoir va s'exercer un peu différemment de qu'est-ce qui s'exerçait autrefois, alors qu'on voit que ça fait juste continuer, en fait. Et puis qu'il serait mieux de s'enraciner dans leur propre communauté, de lutter là, plutôt que de faire des acteurs vices, comme ils disent.
Absolument. Et je pense que quelqu'un qui s'enracine dans sa communauté et qui se bat contre sa propre oppression au travail, à l'école, dans la rue, si on est une personne sans abri, etc., etc., une personne qui fait ça apprend très vite la vraie nature du pouvoir et apprend très vite sa vraie position dans le système et dans le monde, apprend à se connaître et apprend l'influence qu'il ou elle peut optimiser pour améliorer le système. C'est un apprentissage. On ne peut pas faire cet apprentissage-là si on ne participe pas à s'opposer à ce système.